Monsieur Claude Kamal Kotsi, vous venez d'Égypte et vous êtes arrivé ici, ça fait maintenant plus de 50 ans.
Voilà, je suis arrivé en 1968 et puis j'avais 15 ans. Et puis c'était tout un changement, vraiment l'immigration dans sa plus pure expression. Arriver avec des valises et lâcher dans un autre univers.
Mais c'est quand même formidable parce que, comme vous dites, vous êtes juste venu avec des valises puis lâché dans un nouvel univers, mais vous vous y êtes mêlé, vous êtes comme un poisson dans l'eau, dans ce nouvel univers, oui. Vous vous sentez tout à fait partie prenante, comme tout à fait égal, tout à fait intégré, et même que vous vous sentez si bien dans votre peau que vous pensez pour les autres et pour vous.
Écoutez, d'abord je dois rendre hommage au Québec, parce que l'accueil, ce n'est pas seulement la personne qui arrive, mais c'est surtout la société d'accueil. Et nous avons eu un accueil exceptionnel au Québec. Je n'oublierai jamais la gentillesse, l'ouverture, la cordialité, la curiosité de ce que nous étions, manifestée par les voisins, par l'école, par les... Moi, je suis arrivé ici en 11e année, à la fin du secondaire. Les étudiants autour de moi, et puis c'était vraiment on peut pas rêver mieux comme accueil. Et je vais vous faire une petite confidence. Je me suis assez vite senti au Québec plus faisant partie de la société que je ne l'étais lorsqu'on était en Égypte. Et c'est lié à la société d'accueil, à l'acceptation de l'autre. Le Québec, qu'on accuse parfois à tort de ne rejeter l'autre, au contraire, s'est manifesté dans une exceptionnelle ouverture et une exceptionnelle intelligence dans l'accueil. Et ça, je ne l'oublierai jamais, et je serai toujours reconnaissant au Québec pour cela. Donc, en plus, j'ai épousé une Québécoise. Et puis, je me suis intégré. Le fait d'arriver à cet âge-là, de faire la dernière année du secondaire, si vous voulez, ça donne une connotation que mes frères n'ont pas eue parce qu'ils sont arrivés un peu plus vieux, en même temps que moi, mais ils étaient plus vieux. Mais le fait d'être sous les bancs de l'école secondaire, puis du cégep, puis de l'université, etc., de faire tout le circuit, contribue largement à l'intégration. Faut dire aussi qu'on parlait français, la barrière de la langue n'était pas là, même si on parlait pas exactement le même français, et que j'ai été exempté au cégep d'un travail en français à faire, qui était de corriger les anglicismes et les néologismes québécois que je ne connaissais pas du tout. Donc il y a eu de l'ouverture, il y a eu de l'intégration, il y a eu un timing, et tout ça a donné un résultat qu'on ne peut plus heureux.
C'est vrai, quand on est jeune, tout est beau, hein.
On pense que tout est beau.
On se sent, en tous les cas, vous vous êtes senti à l'aise, vous vous êtes senti chez vous, vous avez pas eu de sentiment ni de rejet, ni d'être différent, ni d'être pointé du doigt, ni vous êtes un poisson dans l'eau.
Un poisson dans l'eau.
Et quand on compare un peu la vie qu'on avait en Orient, puis la vie qu'on avait ici, sous la lumière d'un débat actuel qui secoue le Québec, l'Occident aussi. Quand on parle de laïcité, On peut le faire en Occident, mais quand on est en Orient, le mot de laïcité n'a pas vraiment de valeur, n'a pas de contenu. On peut pas être contre la religion quand on est en Orient.
Absolument, vous avez tout à fait raison, et c'est une liberté qu'on a en Occident, qu'on n'a pas en Orient. C'est-à-dire qu'en Orient, l'État et le religieux sont intimement liés l'un à l'autre, et il ne s'agit pas d'une religiosité ouverte, cela, mais c'est des pays d'où on venait, c'est l'islam, qui est la religion de l'État imposée, et les quelques milliers ou centaines de milliers de catholiques latins, comme nous l'étions, sont considérés comme des minorités discriminées officiellement. Alors, c'est clairement qu'on les discrimine, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller très loin dans la fonction publique, ils ne peuvent pas aller très loin dans l'armée, ils ne peuvent pas aller... Donc c'est très clairement établi. Il y a aussi les quelques 15 millions de coptes qui sont les Égyptiens qui étaient là, même du temps du Pharaon, avant l'évangélisation par Saint-Marc de l'Orient et de l'Égypte, et qui, eux, sont de facto considérés comme Égyptiens, mais tolérés et discriminés et ostracisés de par leur religion. Donc, la liberté, l'immense liberté qu'on a ici au Québec, comme en Occident, c'est de pratiquer la religion qu'on veut et de pouvoir discuter de la place de la religion, qui est le débat central de la laïcité. Le débat central de la laïcité, c'est quelle est la place de la religion dans l'État. Alors, c'est toute cette articulation-là qui est la laïcité, c'est la réponse à cette question, et qui veut distinguer, si vous voulez, tout ce qui est citoyen, donc fait d'un consensus citoyen autour d'élections, autour de débats parlementaires, autour de débats de société, par rapport à la réalité et au domaine du religieux, et essayer d'établir une barrière, un mur entre les deux, pour répondre à l'obligation, à la nécessité de servir une population qui est maintenant multiethnique, qui est multireligieuse, qui représente des différents courants religieux, et que la seule façon d'y répondre de façon harmonieuse, le fameux mieux vivre ensemble, c'est la laïcité qui y répond. La laïcité, c'est ce projet de société d'être tous ensemble, citoyens, égaux, et en même temps pouvant pratiquer la religion de son choix, ou ne pas pratiquer de religion, ou militer pour l'athéisme, ou être agnostique, en fait, de ne pas que l'État ne se mouille pas, n'interfère pas, ne soit pas influencé par une religion quelconque. Et c'est ça le fondement de la laïcité, avec lequel on ne peut pas être en désaccord. Et même les opposants à la laïcité disent que oui, la laïcité, c'est déjà là. C'est déjà là. Alors que on ne peut pas promouvoir et défendre une laïcité sans qu'il y ait des gestes concrets, sans qu'il y ait des prises de position réelles au sujet de cette laïcité.
C'est-à-dire que même si nous avons déjà beaucoup de laïcité qui est installée dans notre système, dans notre vie au Québec actuel, mais il y a toujours un danger que cette laïcité soit, je ne dirais pas attaquée, mais qu'elle ne soit pas respectée, et ceci vaut pour toutes les autres considérations, c'est-à-dire que nous vivons bien actuellement, mais il y a toujours un danger sur la place que l'individu a dans la société. Même les droits civiques, il y a toujours un danger qu'il soit menacé. Même les droits personnels, même le droit de parole, même la liberté d'expression, même les droits démocratiques. Il y a toujours des dangers que ils s'effritent, ces droits-là, ou qu'on les perde, ou qu'ils soient attaqués, ou qu'ils soient menacés.
Vous avez tout à fait raison, et même je vous dirais que ça vaut la peine de réfléchir à ces droits, de d'établir. Et puis il y a aussi, étant donné qu'on vit dans une société de droits multiples, des arbitrages à faire entre différents droits. Alors, les droits ne sont pas absolus. Et c'est ça tout l'équilibre délicat à faire. Et l'exemple de la laïcité est un très bel équilibre qui a été fait dans la loi sur la laïcité de l'État, qui a été connue comme étant le projet de loi 21, la fameuse loi 21, qui est la loi sur la laïcité de l'État au Québec, qui est basée sur 4 grands principes. Et on pourra en discuter plus en détail, mais vous dire d'abord que le premier principe de cette loi-là, c'est la séparation de l'État et des religions. L'État affirme que le religieux n'a pas à avoir, à s'exercer ou à dire ce qu'il y a à faire dans les affaires de l'État. Alors ça, c'est le premier principe. Le deuxième, qui vient tout de suite en corollaire, c'est la neutralité. C'est-à-dire que l'État s'engage à ne pas favoriser une religion plutôt qu'une autre, ou une posture philosophique plutôt qu'une autre. Il s'engage à être neutre. Vous savez qu'en Occident, et surtout ailleurs, on assiste à un phénomène du retour de religieux dans les affaires de l'État. Et c'est une barrière qu'on veut établir lorsqu'on parle de laïcité. Donc, la neutralité de l'État, comme deuxième principe. Le troisième principe, c'est celui de l'égalité de tous les citoyens. Peu importe leur posture religieuse. On avait dit pas de discrimination en fonction du sexe, de l'origine ethnique, etc. Mais la posture, la croyance, la religion, ou la non-croyance, ou l'agnosticisme, toutes ces postures-là, on ne discrimine pas là-dessus. Donc l'État ne veut pas, tous les citoyens sont égaux. Et enfin, le dernier principe, qui est celui de la liberté de conscience et la liberté de religion, sont protégés. Et la liberté de conscience est un concept un peu plus englobant, et plus délicat que celui de la liberté de religion, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, ou de croire à un sous-ensemble, ou de croire à croire puis décider de ne plus croire, quitter une religion, revenir à une autre religion. Tout le droit d'être libre au fond de son âme, de nos croyances, qui est une liberté fondamentale de laquelle la liberté religieuse procède. La liberté religieuse existe parce que la liberté de conscience qui l'englobe existe et permet de dire que c'est légitime aussi d'avoir une posture athée, que c'est légitime d'avoir une posture agnostique, que c'est légitime d'avoir une posture religieuse, peu importe la religion.
C'est-à-dire que on est habitué, on prend ça pour acquis au Québec que ces droits existent, puis ils vont toujours exister, mais finalement il y a toujours des hauts et des bas.
Absolument.
Et il y a toujours un risque et une menace que ces droits, même si théoriquement ils existent, qu'ils ne soient pas exercés ou qu'on ne puisse pas les exercer un jour.
Effectivement, effectivement. Et c'est de là la préoccupation. Vous savez que le débat sur la laïcité au Québec ne date pas d'hier. C'est un vieux débat. Il remonte même au refus global, au manifeste du refus global. Il remonte à la Révolution tranquille. Il remonte à la déconfessionnalisation des écoles. il remonte à, au débat qu'on a eu sur la place, ou mettons la, tout le débat qu'il y a eu autour de la Chabia, par exemple, ou le débat qu'il y a eu à l'occasion des accommodements raisonnables, la commission Bouchard-Taylor, tout le débat sur... C'est un débat qui a été longtemps dans la sphère publique et qui est un débat qui fait des pas et avance et qui est mûr pour avancer encore. Et la loi sur la laïcité de l'État, le fameux projet de loi 21, est un aboutissement. Et c'est même un aboutissement qui va avoir un autre aboutissement demain. Puisque vous savez que nous enregistrons aujourd'hui, lundi, votre émission, et que demain, mardi, la Cour supérieure a annoncé qu'elle va publier son jugement de contestation de la loi sur la laïcité de l'État. Donc on va avoir des nouvelles demain au sujet de qu'est-ce qui va se passer, au sujet de cette contestation qui a été faite par une vingtaine d'associations et d'individus qui contestent cette loi-là.
Alors, on ne peut que souhaiter une inspiration divine au juge qui va prononcer son jugement demain. Claude Kamal Kotsi, vous êtes arrivé ici au Québec à l'âge de 15 ans, vous... en dernière année du secondaire, puis vous vous êtes senti tout à fait à l'aise, vous vous êtes senti chez vous, vous aimez cette vie qui vous remplit de joie ici au Québec, et vous luttez pour que les citoyens du Québec aient leur droit plein et entier et une vie heureuse dans l'égalité, dans leur liberté d'expression religieuse ou pas religieuse, mais dans leur liberté et en égalité avec tout le monde. Pensez-vous qu'il y a des dangers? Pensez-vous que qu'est-ce qui menace ces droits qui existent actuellement? Pourquoi il faut toujours faire une loi pour qu'on ait une assurance que ces droits ne vont pas diminuer avec le temps?
C'est une très belle question. Je vous dirais, ce qui menace les droits, c'est souvent les abus de droit. C'est-à-dire que, écoutez, moi, je peux vouloir, j'ai une liberté de circulation, j'ai une liberté d'expression. Bon. Et puis, ma liberté d'expression peut m'entraîner à dire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies au sujet des gens qui ne partagent pas mes idées. Je peux aller très loin, je peux les accuser de mentir, je peux les accuser de... Et là, la loi me dit non. Ta liberté d'expression, elle a une limite. Parce que la personne en face de toi, même si c'est ton adversaire, lui aussi, il a des droits. Il a le droit à sa réputation. Il a son droit à s'exprimer lui aussi. On a le droit collectivement à un débat sain. Donc, ma liberté d'expression va stopper au moment où je vais diffamer quelqu'un, où je vais dire des mensonges avérés au sujet de cette personne. Ma liberté de circulation va s'arrêter sur le terrain du voisin. Lui aussi, il a sa propriété. Et on a l'espace public. Et il y a les frontières. Donc, il y a des limites, des bornes à établir. Et c'est souvent cet arbitrage. Alors, on a une liberté de pratiquer sa religion, comme de faire le choix de ne pas avoir de religion ici au Québec. On a cette merveilleuse idée. Mais on ne peut pas imposer notre religion aux autres dans l'appareil de l'État. On peut pas imposer, afficher en, constamment à des, par exemple, pour prendre l'exemple qui est l'exemple qui est considéré comme problématique, celui de l'école. À l'école, il y a tout un débat parce qu'on a eu un consensus au sujet de du fait de ne pas afficher de signes religieux pour les personnes en autorité. On a eu ce consensus avec Bouchard-Taylor, même s'ils ont reculé à la toute fin. Mais les policiers, les juges, les gardiens de prison, les avocats de procureurs du gouvernement n'affichent pas de signes religieux quand ils sont en contact sur leurs heures de travail.
Sur leurs heures de travail.
Sur leurs heures de travail.
On précise.
Oui, sur, dans leurs prestations de travail.
Ils peuvent porter une croix chez eux à la maison, dans la rue, tout le temps, mais quand ils sont sur les lieux de travail, on leur a demandé de ne pas afficher des signes religieux.
Quand ils exercent, quand ils font leurs prestations de travail, on leur a demandé, étant donné qu'ils sont des représentants d'un État, et que cet État est laïque. Bon. À présent, on permet aux autres fonctionnaires, parce que la loi qui a été établie est très modérée, parce que la vision, si vous voulez, la plus cohérente, ça aurait été de dire que tout employé au qui est de la fonction publique n'aurait pas de signe religieux, puisque la fonction publique est laïque, l'État est laïque. On a décidé que c'est dans les fonctions en autorité, les postes qui exercent une certaine autorité. Là où le bas blesse pour les opposants, c'est l'école. Alors, ils ont contesté le fait que l'école soit un lieu d'autorité. Et ils disent non, l'école n'est pas un lieu d'autorité. Alors que, en réalité, si on examine clairement, là, l'enseignant est en position d'autorité vis-à-vis de ses élèves, ça ne fait pas de doute, il a le droit de suspendre, il a le droit de punir, il a le droit de contraindre, d'évaluer, et il exerce même une influence importante sur le futur de l'élève. Alors,
et cette... En tout cas, il représente les parents. Absolument. Les parents lui ont délégué leur pouvoir.
Et l'État aussi.
Et l'État.
Les parents et l'État lui ont délégué un pouvoir, et il a ce pouvoir, et on peut s'attendre à ce que lorsqu'on est on envoie nos enfants dans une école laïque, on peut s'attendre à ce que l'enfant puisse interagir avec un enseignant qui soit neutre sur le plan religieux. Alors, les opposants vont dire, oui, il est neutre, mais il a ses signes. Mais ce que dit le législateur, avec raison, c'est qu'il faut qu'il soit neutre dans les faits et dans les apparences. Parce que nos sociétés s'occupe aussi des apparences. On doit rendre justice et il faut qu'il y ait apparence de justice. On ne doit pas être en conflit d'intérêts et il ne faut pas non plus qu'il y ait apparence de conflit d'intérêts. À présent, il y a une autre dimension qui est celle du signe. Si l'enseignant dit « Moi, je suis neutre. Je fais pas de prosélytisme. J'essaie pas de convaincre. Mais je porte ma croix, ma kippa, mon voile islamique, et je le porte en permanence, je peux pas l'enlever. Mais je veux enseigner aux jeunes qui sont à l'élémentaire ou au secondaire, c'est de ça dont on parle, à l'école publique, et du moins je veux le garder. Tout le débat est autour de ça, là. En fait, une grande partie du débat est autour de cela.
Pendant les heures de travail.
Pendant les heures de travail, je veux le garder. Alors, même en plus, si vous voulez, si vous me permettez, parce que j'ai assisté à tous les débats du procès, il y avait clairement une double posture des opposants. D'un côté, on a eu des témoignages d'enseignants qui disent « Moi, mon signe, il est très important pour moi. Il est extrêmement important pour moi. Il fait partie de mon identité. Je ne peux pas l'enlever. » Et en même temps, deux phrases plus loin, la même personne nous dit « Ce signe n'a aucune importance pour les enfants. Ça n'a pas d'importance. » Il ne le voit pas.
Donc c'est un double discours.
Un double discours qui ne tient pas la route. Qui ne tient pas la route. Les signes sont porteurs de sens. Les signes ont une signification qui est même indépendante de celle que le porteur du signe veut leur donner. Alors, écoutez, si je porte une croix, ça a le symbole d'une croix. Si je porte, et ça c'est connu dans le monde entier, ce n'est pas une nouveauté. Alors, là où on aborde toute la question que j'ai légèrement abordée au début de la liberté de conscience. C'est-à-dire que le fond du débat, pour nous, c'est l'école. L'école, pour nous, est même plus importante, nettement plus importante, que le gardien de prison qui a devant de lui un détenu qui est un être adulte, responsable, qui a posé des gestes, qui sait distinguer ce qui lui convient de ce qui ne lui convient pas. Donc, que le gardien de prison porte des signes ou pas, par rapport à l'enseignante ou à l'enseignant qui est avec des jeunes de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, qui sont en train de bâtir leur jugement, leur conviction, leur croyance, et qui se trouvent exposés en permanence, pendant toute la journée, à quelqu'un qui porte un signe religieux affiché, et qui, en plus, est une figure d'autorité et un modèle d'identification, cette personne-là. Là.
Mais souvent, l'étudiant, l'élève en classe, il va admirer son professeur.
Absolument. Et c'est ce qu'on souhaite.
Et il va vouloir faire comme lui, il va vouloir devenir comme lui.
Absolument. Et c'est ce qu'on souhaite comme parent. On souhaite que le parent, que l'enseignant, soit une figure d'autorité et soit un modèle. On sait ce qu'on souhaite. Et là, ça nous amène à... Alors là, je vais juste terminer ma pensée là-dessus. Alors, soumettre le jeune à que ce soit, peu importe le signe, c'est dire, faire la confusion entre c'est le signe, l'enseignant, et celui que j'admire et qui est ma figure d'autorité. Et c'est ce signe, en permanence, qui est ma figure d'autorité. Il y a un transfert très clair, là, qui est démontré. De là, toute la publicité. La publicité, c'est quoi? C'est qu'on nous expose à l'image d'une bouteille d'eau gazeuse en nous associant le bonheur et l'eau gazeuse. Ou le gin et les vacances. Et on nous soumet ça, là. Alors là, on affecte notre image. Quand on est adulte, on dit, bah oui. C'est pour la raison pour laquelle on interdit la publicité dans les écoles. On n'a pas de publicité dans les écoles, on refuse la publicité. Mais là, on a une forme de publicité religieuse par le signe, qui est une publicité religieuse. Voici ce que dit le prof, c'est voici ma préférence religieuse que je vous affiche. Et moi, je suis très compétent, je suis un excellent prof. On a eu plusieurs personnes qui ont défilé pour nous dire que leur signe religieux n'enlevait pas leurs compétences. Mais absolument pas. On n'a jamais prétendu que leur signe religieux enlevait de leurs compétences. Mais leur signe religieux confond le rôle d'enseignant au service des parents, des enfants et de l'État et le rôle de témoin de leur foi. Et on va distinguer les rôles. C'est très simple. Et là, je vais rajouter juste une chose. Une autre dimension là-dessus. C'est la dimension de mise en porte-à-faux des parents. C'est-à-dire que si, je prends l'exemple, une enseignante voilée, elle est voilée tous les jours, et il y a des enfants qui assistent. Il y a des enfants, des petites filles musulmanes, chrétiennes, tout ce que juives, etc. Mais la petite fille musulmane qui pose la question à son prof, elle lui dit « Pourquoi tu portes un voile ?» Elle lui dit « Ben, c'est ma religion. » Elle dit « Moi aussi, je suis musulman. » Elle retourne à la maison. Puis là, à la maison, vous savez qu'on a plusieurs personnes qui sont issues de l'immigration et qui ont vécu des difficultés avec la question du voile en Orient, avec l'imposition du voile, en Algérie, même en Égypte, en Tunisie, où on imposait le voile comme marqueur de l'islam radical. Après, on pourra en parler si ça vous intéresse. Marqueur de l'islam radical imposé aux femmes. Et sinon, on les battait, on les violentait. Et dans d'autres sociétés, on les vitriolait. Donc, ils ont vécu
On disait que c'était pas des bonnes musulmanes.
Absolument pas. Elles n'étaient pas pudiques. C'était pas des bonnes musulmanes. Alors que, et là, il y a toute la discrimination homme-femme qui rentre dans le débat. Donc, et là, je vous pose l'autre question, c'est que les parents qui voient que l'enseignante est voilée et qui rentrent, et leurs enfants qui sont là, et là, ils sont mis en porte-à-faux. Est-ce qu'ils vont contredire l'enseignante, dire non, non, nous, on croit que c'est pas bon, ça. Mais on veut pas affecter l'autorité du prof. On veut pas affecter le modèle d'identification. Donc, et des parents ont témoigné durant le procès de ce malaise profond qu'ils avaient, qui affectait leur rapport avec leur enfant. Ou bien ils contredisaient le prof, ou bien ils mettaient en veilleuse leurs convictions. Alors tout ceci est réglé par la neutralité et la non-affichage.
Et c'est ça que le gouvernement du Québec, actuellement, le gouvernement de la CAQ, a présenté dans son projet de loi 21, qui a été adopté, mais finalement qui est actuellement contesté devant les tribunaux.
Absolument. Qui est contesté avec une virulence. Vous savez, il y avait même, comment je vous dirais, un déséquilibre de force en cours avec, d'un côté, quelques 24 avocats qui s'opposent à la loi des plus grands bureaux. Et puis, de l'autre côté, le procureur général du Québec avec 3-4 avocats. Et puis, il y avait le mouvement laïque québécois avec 2 avocats pour les droits des femmes, un avocat et les libres penseurs athées. Donc, il y avait 7-8 avocats du côté de la partie défendresse et la partie demanderesse qui attaquait la loi. Il y avait 24 avocats et des moyens énormes de déployer. Et contre une loi qui a été votée, on ne peut plus légitimement, qui a été, c'est pas une surprise qui nous est arrivée, et c'est le parti de la CAQ avait annoncé en campagne électorale qu'il allait régler cette question et faire adopter une loi sur la laïcité de l'État. Il a fait campagne là-dessus, et il y avait eu précédemment tout le débat de 2008 jusqu'à 2018, 10 ans de débat. Et la CAQ a présenté un projet de loi, il y a eu une commission parlementaire, les gens se sont exprimés. Là, on va invoquer qu'il y a eu un bâillon à la fin, mais c'est un bâillon parce que à un moment donné, on pourrait étirer ça pendant des années. À un moment donné, le gouvernement a dit, bon, ben, on a écouté, voici notre position, et on la présente dans ce projet de loi, et on l'a voté. Et la population, au-delà de 70%, appuie le gouvernement là-dessus. Ce qui est fascinant, ça a fluctué entre 60 et 75% là, d'appui de la population au gouvernement dans cette position qui on ne peut plus saine, on ne peut plus québécoise, on ne peut plus inscrite dans l'évolution du Québec.
Monsieur Claude Kamal-Kotsi, vous avez assisté aux séances en cours alors que des groupes de pression contestaient cette loi qui avait été adoptée par le Québec. En fait, ces séances se sont étirées sur presque un mois et demi. Parlez-nous un peu de du climat qui régnait à l'intérieur du tribunal.
Ouais. Bon, d'abord, je vous dire que ça a été une expérience passionnante. C'est passionnant d'assister à ça. C'est un cours accéléré d'histoire du Québec, de droit, un cours de droit constitutionnel, un cours, parce qu'il y a eu des experts de tous les champs qui ont un cours de sociologie, un cours de droit comparé avec le droit européen, notre droit. Quand je parle d'histoire, on est remonté à l'acte de Québec, à l'acte constitutif de la Confédération. C'était un moment passionnant, okay, avec des experts très compétents, des sociologues, des linguistes, des spécialistes des histoires des religions qui nous ont présenté toutes sortes de choses. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que les débats ont été, comment je vous dirais, très costauds, articulés, etc. Avec, en général, la courtoisie qui est liée à la cour, mais avec certains dérapages. C'est-à-dire que des dérapages non négligeables où il y avait une prétention, une accusation sous-jacente et quelquefois clairement formulée que sous couvert de laïcité, c'est du racisme qui s'exprime. On veut rejeter l'autre, et pour rejeter l'autre, ce qu'on trouve à dire, c'est que on veut que ce soit laïque. Donc, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle une catholaïcité. Parce que les chrétiens, pour eux, c'est pas très important la croix qu'ils portent, mais tandis que les autres religions, c'est très important pour elles, ce qui est absolument faux. Dans la loi, tout le monde est traité de façon égale. Et je voudrais juste rappeler tout le travail qui a été fait dans les années 70, 80, 90, où toutes les écoles étaient tenue par des religieuses et des religieux qui étaient en soutane et en cornette, et tout l'effort qui a été fait pour sortir ces, non pas les personnels, le personnel, parce que le personnel est demeuré, mais tous les signes religieux, les crucifix dans les classes. On a jugé que c'était attentatoire à la liberté de conscience. Alors, si le crucifix qui était sur le mur, que personne ne regardait plus, au bout d'une semaine, était attentatoire à la liberté de conscience des jeunes, comment peut-on accepter que le port d'un signe religieux par l'enseignant qui se promène, qui parle, qui est le centre focal d'attention, ne soit pas attentatoire à la liberté de conscience? Alors, il y a eu des accusations durant le procès. Il y a eu même des dérapages majeurs. Là, on parle pas de mineurs. À un moment donné, il y a un avocat qui a laissé entendre que ça, c'est le début de choses qui peuvent glisser et que on a vu les lois de Nuremberg. Alors, les lois de Nuremberg, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est les lois qui ont été votées dans l'Allemagne nazie avant, donc de l'époque de 1935 à 40, pour ostraciser les juifs, interdire les mariages entre juifs et non-juifs, et qui ont mené à l'Holocauste. Donc on a l'échappe de droit à mentionner même le juge, mais là on lui a répondu oui, mais avec la clause non-obstant, la fameuse clause qui est dérogatoire, qu'on appelle la clause non-obstant, on pourra en parler si vous voulez, qui est la clause qui permet, dans la Constitution canadienne, de se soustraire à l'application d'une disposition de la Charte.
Pour cinq ans seulement.
Renouvelable, en prenant tout le poids politique de l'invocation de cette clause-là, pour des raisons autres. Par exemple, on a déjà invoqué cette clause-là pour la loi 101, la loi pour protéger le français. On l'a invoqué à plusieurs reprises. Et nous, le gouvernement l'a invoqué pour éviter de se faire suspendre l'application de sa loi sans lui donner l'occasion de vivre et de voir les effets de cette loi.
Mais ceux qui parlent des lois que l'Allemagne avait adoptées avant la Deuxième Guerre mondiale, eux, ils présument que nous, au Québec, on s'en va vers des lois similaires.
Ben, ils ont laissé entendre ça très clairement, en disant, alors là, on a mentionné, mais nous, on a des chartes de droits et libertés.
C'est une injustice.
C'est effroyable. Alors il y a eu marche arrière. Alors là il y a eu, on a dit mais il y a des lois, on a les chartes des droits et libertés. Alors la réponse a été mais en utilisant la clause dérogatoire, qui est une clause constitutionnelle, la clause dérogatoire, ben on suspend la Charte des droits et libertés. Et là, ça s'est passé un vendredi. Le lundi matin, ça a fait un tollé dans tous les milieux. Lundi matin, cet avocat a dit que c'était des considérations théoriques qui n'induisaient pas que... Mais je vous avoue bien honnêtement que ça a été vraiment un moment très dur, comme quoi il n'y a comme pas de limite, de la même façon que toutes les accusations effroyables qu'on a subies de toutes les provinces, de plusieurs provinces à l'extérieur du Québec, qui venaient même faire des affiches dans des journaux québécois en disant, si vous êtes voilé, venez chez nous, nous on vous accueille, nous on ne discrimine pas, nous on n'est pas racistes. L'accusation de racisme liée à cette loi-là est un amalgame odieux. C'est odieux de dire ça. Parce que...
Nous, on trouve pas qu'il y a du racisme. C'est ça qui est bizarre. Il y a un petit fond de racisme légitime, normal, dans tous les pays, chez tous les peuples, mais ce n'est pas du racisme, c'est de l'autoprotection. Ouais. Coller cette étiquette de raciste parce que ça vient du Québec, il me semble que c'est une exagération qui est malveillante, qui est mal intentionnée, pas de bonne foi.
C'est ce qu'on appelle le Québec bashing.
Oui.
Le Québec bashing dans sa plus pure expression, et c'est un Québec bashing dans lequel, comment je vous dirais, totalement injustifié. Les principes de la laïcité sont générateurs de droits. En fait, le gouvernement a créé une nouvelle catégorie de droits. C'est un droit collectif à avoir un gouvernement et des services qui soient laïques. En plus, il protège la religion. Chacun peut l'exercer quand il veut, comme il veut. Mais, quand on est au service de l'État, dans certaines fonctions spécifiques bien définies, pendant la prestation de travail, on ne dit pas de signe religieux. Mais je vais vous faire remarquer tout simplement que ça existe déjà pour les signes politiques. On n'a pas le droit de porter un macaron. Moi, je suis, pendant que je suis enseignant, je suis membre du Parti libéral du Québec ou du Parti québécois, ou du Parti de la CAQ ou de Québec solidaire. On n'a pas le droit. On ne limite pas la liberté de militer. On limite la liberté d'afficher sa militance.
Un droit de réserve.
Ah voilà, même chose. Et ça existe même dans la loi de la fonction publique. Et quelqu'un qui contrevient à cela, à cet affichage, quelqu'un pourrait prendre le même raisonnement que pour la loi sur la laïcité de l'État. Il va dire non, moi j'affiche, mais je vais être très neutre dans mon discours.
Et vous pensez que ces idées-là, elles sont mises de l'avant par des groupes qui ne veulent pas s'intégrer? Ou qui veulent s'intégrer à leurs conditions, ou bien des groupes qui veulent faire du prosélytisme, ou bien qui sont payés par quelqu'un leur a demandé de faire ce genre de débat.
Bon, d'abord vous dire que il y a de tout.
Il peut y avoir de tout.
Voilà. Alors, il y en a certains qui font de ce débat une question de mon droit individuel ne doit pas être touché. Mon droit individuel à exercer et à afficher ma religion est sans limite. Je vous ai donné il y a un instant des exemples de limites qu'on place dans l'affichage. On n'affiche pas de publicité de Coke à l'école. On n'affiche pas, un prof ne peut pas arriver avec, parce que il y a des conséquences à cela, on pourrait rentrer dans les conséquences qui feraient du mal à tout le monde. Par exemple, l'école pourrait devenir le lieu de compétition des affichages. C'est comme des... Alors là, le prof de d'anglais avait fait avec son chandail où c'est marqué vive Dieu et Jéhovah, et l'autre va arriver ensuite avec son voile, et le troisième avec sa kippa.
Et tout le monde va être malheureux.
Et attendez un peu, l'athée va rentrer avec son chandail Dieu n'existe pas. Et chacun va devoir enseigner les mathématiques. Vous voyez quel beau programme de mathématiques on va avoir, là. C'est pas le lieu, là. C'est pas le lieu de ça, là. Il y a des universités, il y a des débats, il y a des dialogues interreligieux qui existent. Donc, c'est pas le lieu. Alors, pourquoi ils font ça? Il y en a qui vont dire, moi, c'est moi, ma liberté. D'autres qui ont des agendas, qui veulent faire du prosélytisme. D'autres qui veulent faire du prosélytisme, non pas en vertu d'une religion, mais en vertu de la place du religieux dans l'État. Ils veulent pas abandonner. Ils croient que l'État doit être aussi religieux. Ils le disent pas fort, mais ils veulent l'imposer.
Nous sommes toujours avec Monsieur Claude Kamal-Kotsi. Nous avons parlé de le projet de loi de la laïcité qui a été adopté par le gouvernement de la CAQ au nom du peuple du Québec et qui est actuellement contesté en cours, puis qui on va recevoir le jugement incessamment. Et
demain. Demain.
Notre boule de cristal nous dit que le débat ne sera pas terminé.
Vous avez bien raison là.
Pourquoi les Canadiens anglais ne peuvent pas accepter que les gens du Québec cherchent à, même s'ils veulent s'exprimer comme laïcs ou comme citoyens ou comme séculiers, pourquoi on n'accepte pas ça des gens du Québec?
Voyez-vous,
on comprend qu'au Canada, que nous on l'a accepté ici, ou bien,
ben il y a comme deux visions qui s'affrontent un peu là. Je peux essayer de camper les deux visions. Il y a une vision en fait, vous savez que le mot laïcité n'existe pas en anglais. Le mot séculier, secularism, existe en anglais, mais pas laïcité. C'est un concept
républicain français,
voilà,
de la Révolution française.
Voilà, et qui s'est développé, et qui a pris de l'ampleur. Bon. Il y a aussi, non, on va pas se le cacher, le fait que, et ça va être ça le débat, qu'il y a dans la culture anglophone une plus grande, comment je vous dirais, une immense sensibilité à l'expression de l'individu qui va jusqu'au bout. Nous avons au Québec, et peut-être plus du côté européen, un sens aussi de la loi qui va venir, protéger collectivement des choses, là. Et non pas individuellement. Il y a une vision clair-obscur, là. Et la vision des droits de la personne n'a pas encore son pendant des droits collectifs.
Donc il y a cette partie du débat, là.
Voilà. Et là, il y a un affrontement, là, entre, voyez-vous, nous, on essaye d'établir un droit collectif, et eux ne reconnaissent pas ce droit collectif.
C'est le débat, c'est sûr que on n'a pas fini d'en parler, mais c'était quand même éclairant de que vous nous avez apporté des points importants, Monsieur Kotsi. De la part d'un chrétien du Moyen-Orient qui vit ici au Québec depuis plus de 50 ans, puis qui partage les soucis et les bonheurs de des gens d'ici.
Je vous remercie infiniment de m'avoir donné cette occasion et de pouvoir continuer à débattre. Je pense qu'on en a pour quelques années encore.
Pierre de Gagné, à la régie, merci. Et moi, c'est Raouf Ayas qui vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.